Donc nous voici réunis pour la dernière rencontre et qui est en même temps la dernière rencontre de ce cycle sur le thème de la beauté et de la vérité. Alors c'est l'occasion non pas de proposer une conclusion vraiment, car vous devinez bien que une telle conclusion ne pourra pas prendre la forme d'un résultat, mais l'aboutissement d'un parcours. Et puisque certains nous ont rejoints en cours de route, que d'autres ne sont pas là ce soir, je voudrais rappeler brièvement quel est le parcours suivi, quelle est la question qui nous a conduit à interroger un certain nombre de grands auteurs à propos de cette question, donc de la relation entre beauté et vérité. La question, elle est simple, c'est celle que chacun se pose. La beauté est-elle illusion? La beauté est-elle trompeuse? Cette question, elle est une question que se posent essentiellement des modernes que nous sommes tous. Car quand nous avons ouvert les pages de Platon ou de Saint-Augustin, nous avons pu entendre que la beauté est la manifestation sensible du vrai. Le vrai dans tout son éclat, le vrai tel qu'il est donné dans une expérience qui est en même temps charnelle et spirituelle, et que le chemin qui conduit au vrai va au vrai par le beau selon le chemin du désir. C'est ce que nous apprend Platon. C'est ce que nous apprend saint Augustin, aller au vrai par le beau en suivant le chemin du désir, le chemin de l'amour, qui donc permet cette ascension de l'âme à partir d'une sensibilité qui n'est pas tout enlisée dans la misère, mais qui donc reçoit des échos de la splendeur du vrai, et lui donne envie de battre des ailes comme des oies de basse-cour battent des ailes quand elles voient passer des oies sauvages, désespérément. Et donc essaye de rejoindre les oies sauvages, ce qui ne leur arrive qu'une fois dans le voyage de Nils Holgersson. Mais nous avons vu aussi que dans ces grandes pensées qui caractérisent la vérité comme contemplation, pour Platon, pour saint Augustin, la vérité n'est pas un énoncé que l'on peut véhiculer, que l'on peut encadrer comme un résultat. La vérité est essentiellement une expérience pour Platon et saint Augustin. Et c'est une expérience de contemplation. Que sur cette expérience de contemplation, que pour cette expérience de contemplation, nous puissions aller sur le chemin de la beauté, cela n'a rien d'étonnant si l'on pense précisément, et avec combien de force pour saint Augustin, la condition incarnée de l'homme. Or, pour Platon comme pour saint Augustin, la question de la beauté n'est pas la question de l'art. L'art apparaît à leurs yeux, pourtant ils en sont experts, comme quelque chose d'ambigu, une contrefaçon, une attitude flatteuse qui peut être davantage donc un obstacle à la vérité qu'un chemin, une contrefaçon trompeuse. Nous avons vu que la question est complètement, même si c'est au prix d'un certain nombre de simplifications, mais bon, il faut bien simplifier pour parler, nous avons vu que la question est complètement renouvelée dans ce que l'on appelle la modernité, c'est-à-dire ce qui apparaît au XVIIe siècle. Lorsque la vérité n'est pas conçue comme contemplation, sauf dans certains auteurs, tel Descartes, mais lorsque la vérité est conçue comme construction, construction de son objet. C'est ce qui va donner l'avènement de la science. La science déploie toute la force de l'esprit en une histoire étonnamment brève, 3 siècles, en ayant une conception de la vérité comme construction de son objet. À ce moment-là, cette construction est rendue possible à condition que les objets soient dépouillés de leur qualité sensible. Ils sont dépouillés de leur qualité sensible par la mesure, qui est la clé de la connaissance. Mesurez tout, disait Galilée. Et donc, les choses ne sont plus ni colorées, ni odorantes, ni douces, ni dures, ni lourdes, ni légères. Elles sont à mesurer. Tout pensé par calcul et mouvement, tout pensé par mesure et mouvement. À ce moment-là, évidemment, l'expérience sensible est disqualifiée. Enfin, elle est disqualifiée. Elle doit être contrôlée par l'expérience de laboratoire. Elle doit être contrôlée par le calcul mathématique. Et on va instaurer la distinction qui nous hante encore en apparence, en réalité. En apparence, nous voyons cet objet petit. En réalité, il est petit parce qu'il est éloigné. En apparence, nous voyons un objet rose. En vérité, il est fait de pigments rouges et blancs. En apparence, nous percevons une plume. En apparence, un kilo de plume est plus léger qu'un kilo de plomb. Si vous voulez le tester, je suis prêt à le faire avec vous. En apparence, un kilo de plume est plus léger qu'un kilo de plomb. En réalité, ils sont identiques, rapportés à l'ordre de la quantité. C'est le suprême effort, le magnifique effort de la science de rapporter toute perception à une quantité. Le temps, la température, la masse, etc. Mais du coup, l'expérience sensible s'en trouve disqualifiée. Comme purement qualitative, une impression subjective, une fantaisie à la limite dont il faudrait parvenir à s'extirper. Alors à ce moment-là, la question de la beauté est dissociée de la question de la vérité. J'ai dû évoquer, je me rappelle avoir évoqué ici, la page assez intéressante de Spinoza, dans laquelle Spinoza dit qu'un amant qui verrait le squelette de la main de sa maîtresse ne la trouverait pas belle. Et Spinoza nous dit, la beauté est un effet, mais elle n'a rien en elle-même de réel. Et cet effet est entièrement subjectif et il ne m'instruit pas, car de voir que la main de ma maîtresse est belle ne m'instruit en rien sur ma maîtresse, ni sur la main, ni sur la beauté. Et donc, vous le savez, la devise de Spinoza, c'était « nil mirari, ne s'étonner de rien, ne rien admirer, je ne vois rien d'admirable en ce que ». Et une discipline austère de l'esprit, lui permet d'accéder au vrai à condition qu'il s'émancipe des impressions subjectives et éventuellement fascinantes, mais illusoires, qui caractérisent le monde sensible. Alors, à ce moment-là, ceci est contemporain. Je suis désolé de faire tout ce rappel, mais bon, en même temps, je pense que vous ne le regretterez pas complètement. Curieusement, ceci est contemporain du glissement de ce que l'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire de la question du beau vers l'art. La question du beau, puisqu'elle n'est plus celle du vrai, devient celle de l'art. Et alors on va voir, et on avait déjà vu avant eux, ou à peu près contemporain, l'émergence de ceux que l'on a appelés les artistes. Car je rappelle que le mot artiste date du XVe siècle et que l'émergence de la conception de l'artiste qui signe son œuvre, qui témoigne d'une vision du monde exceptionnelle et singulière, est assez récente et elle est aussi récente que la science. On ignore le nom de ceux qui ont gravé des tympans et des rinceaux. Et cette posture qui va revendiquer une subjectivité va placer la beauté dans l'art et dans, non pas donc, la reproduction d'une belle chose, puisque les choses ne sont pas belles, la main de ma maîtresse, mais la belle reproduction d'une chose. Et c'est dans cette pensée que nous conduit Kant avec beaucoup de profondeur et de sagacité. Donc voilà, en elles-mêmes, les choses, dans leur vérité, ne sont ni vraies, ni belles, ni laides, si bien que l'expérience de la beauté est tout entière reconduite à l'art, qui, lui, va devenir... cette célébration de l'apparence comme telle. Cela rend possible la scission que j'ai indiquée de la beauté et de la vérité, même si parfois, comme on l'a vu chez Kant, la figure de l'artiste peut être celle du génie, c'est-à-dire de celui qui, de manière irrationnelle, imprévisible, de manière naturelle, puisque génie c'est genus, c'est qui a des... Herder disait, excusez cette familiarité, il n'y a pas de génie sans partie génitale. Bien. Le génie, c'est la règle qui se donne sous la forme de la nature, sous une forme de spontanéité incompréhensible et qui nous laisserait transparaître sans doute quelque chose qui n'est pas entièrement récapitulé par la science, mais qui potentiellement pourrait l'être un jour. Cette esthétisation de la question nous a conduit jusqu'à Nietzsche la dernière fois, car si il y a dissociation de la question du beau et du vrai, si la question du beau n'est plus logée que dans l'art, alors on peut penser une vision de la vie qui célèbre l'art pour lui-même, l'art en lui-même, contre la vérité, contre la rationalité, desséchante, étroite, etc., et qui voit donc dans la célébration même, comme le dit Nietzsche, du mensonge, une forme suprême de la destinée humaine, telle que, alors pour le coup, elle est célébrée dans le génie, dans l'artiste, le médium emporté dans un mouvement... d'ivresse. Nous sommes arrêtés la dernière fois à la pensée de Nietzsche, pensée assez étrange, qui dit, l'art contre la vérité, l'art nous console de la vérité, l'art nous sauvera de la vérité, le mensonge nous sauvera de la vérité, puisque, au fond, la dissociation illusion-vérité, la dissociation que j'évoquais tout à l'heure, en apparence, en réalité, cette dissociation, nous l'avons tous. Hein. Mesdames et messieurs, vous êtes tous travaillés par cette dissociation. Vous dites tous, en apparence, il est méchant, mais c'est un brave type. En apparence, les jeunes qui brûlent des voitures sont violents, mais c'est une demande d'amour. En apparence, celui qui fait l'aumône fait un geste d'amour, mais en réalité, c'est une violence. On s'en sort plus. C'est ce qu'on appelle la pensée du soupçon, c'est-à-dire la distinction en apparence et réalité, introduite, paf, dans la conscience elle-même. Et à ce moment-là, c'est la situation dans laquelle nous sommes, où on on est tout penaud, tout jeté dans le désarroi, et qu'on se demande où est la vérité, si ceux qui brûlent les voitures font une demande d'amour, et si ceux qui lâchent une pièce à un mendiant font un geste violent. On commence à être embêté quand même. Surtout que je ne sais même pas si je suis amoureux de ma femme, parce que c'est peut-être ma sœur, mais par bonheur, j'en ai pas. Heureusement pour ma sœur, vous vous rendez compte? Et donc, la pensée du soupçon peut indéfiniment arracher des masques. Alors on peut, comme Nietzsche, dire, eh ben allez, tout est masque, ils en sont. Ouais. C'est à peu près la conclusion à laquelle parviennent la plupart de nos contemporains. Parfois, ça donne des solutions sublimes, comme dans François Truffaut, par exemple, dans Renoir, Renoir le cinéaste. Mais enfin, on peut essayer de penser autrement. Alors c'est ce à quoi Heidegger peut nous conduire. Car Heidegger, qui est un grand lecteur de Nietzsche, qui a publié un cours extrêmement important sur Nietzsche et la métaphysique, au fond dit que lorsque Nietzsche préférer l'illusion à la vérité, lorsque Nietzsche dit préférer l'apparence à la réalité, bien qu'il présente sa philosophie comme un platonisme renversé, le platonisme renversé est encore un platonisme. C'est encore un platonisme puisqu'il accepte encore de distinguer l'apparence et la réalité, même si, contre Platon, il prétend faire le choix de l'apparence. Et la pensée de Heidegger nous permet de voir comment on peut dépasser l'impasse dans laquelle la plupart d'entre nous sommes encore, hein, de dire, finalement... toutes les jeunes filles disent « j'aime rêver », etc. Ce qui compte, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'imaginaire. Bon, c'est très médiocre au bout du compte, très très médiocre. Mais on se contente de ça, on dit « le rêve, c'est plus beau que la réalité ». Et on est un Nietzschéen au petit pied. Ça suffit pas. Pourquoi ça permet pas de vivre? Et c'est ici que Heidegger nous permet, à la lumière de la phénoménologie, de dépasser donc l'impasse de la dissociation de la beauté et de la vérité. En effet, ce qu'il faut dépasser, c'est l'opposition en apparence, en réalité. Et la phénoménologie, qui est, comme son nom l'indique, la science du phénomène, phénoménologie, science du phénomène, c'est-à-dire science de ce qui apparaît. Alors que toute la science, dans son effort rationaliste, s'est voulue comme lutte contre ce qui apparaît. Et donc, la phénoménologie revoit la distinction en apparence en réalité, en rappelant que l'apparence, et je l'ai suggéré lors de notre dernière rencontre, signifie aussi l'apparition. Erscheinung, en allemand, signifie ou apparence ou apparition. Et c'est très différent. Parce que si c'est l'apparence, c'est ce qui trompe. Si c'est l'apparition, c'est ce qui révèle, c'est ce qui manifeste. Et Nietzsche, lorsqu'il dit qu'il est qu'il choisit l'apparence contre la réalité, reste prisonnier d'une image du Schein, de l'Erscheinung, qui est justement apparence. Alors que tout l'effort de la phénoménologie consiste à dire que si je vois cet objet trop petit, ça n'est pas une illusion. D'ailleurs, personne ne s'est jamais demandé, en entrant dans un tunnel, s'il allait pouvoir sortir. Et tout ce que nous analysons comme illusion d'optique vient d'un point de vue de laboratoire, d'un point de vue qui se présente comme objectif, mais qui n'est au fond absolument pas celui du vécu. Car dans le vécu, il n'est pas vrai que la porte qui est au fond de cette salle m'apparaisse comme plus petite que mon bureau. Ça n'était... Vous en voulez la preuve? Regardez les photos familiales. Dans les photos familiales, il y a toujours au premier plan une bouteille de pastis ou des chaussures. Parce que la photo, elle, prend le point de vue objectif, alors que quand je photographie cette femme que je trouve très belle et qui est la mienne, je ne vois pas la bouteille de pastis qui est devant. Et donc, si j'analyse la perception telle qu'elle est vécue, la distinction en apparence, en réalité, ne vaut rien. Et la phénoménologie nous dit, la perception vécue du monde, c'est bien celle qui n'est pas en perspective, ne correspond pas à des objets que l'on compare, que l'on mesure, mais qui correspond à des distinctions beaucoup plus profondes que celles des objets que l'on compare et que l'on mesure, qui sont les distinctions du proche et du lointain, de l'hostile et du favorable, d'un espace vécu et non pas d'un espace mesuré. C'est ainsi que, je veux bien revenir là-dessus parce que c'est très difficile, je suis conscient que j'essaye de simplifier un mouvement de pensée qui est très difficile et qui n'est pas entièrement reçu encore. C'est ainsi que la phénoménologie donc, nous permet de dépasser les problèmes que nous laisse sur les bras le scientisme, vous voyez, qui nous dirait le seul point de vue vrai, c'est le point de vue quantitatif. Même la distinction « en apparence j'aime ma femme, en réalité j'aime ma sœur » ne vaut pas tripette. Et elle supposerait une espèce de psychanalyste observateur objectif qui fait que dans l'expérience affective du vécu, la réalité est beaucoup plus complexe et la distinction « en apparence et en réalité » vole en éclats. Et c'est pour ça que la phénoménologie se propose de revenir au vécu. C'est-à-dire, non pas de la relation d'un observateur à un espace, mais d'un homme à un monde. Et si je prends la relation d'un homme à un monde, alors les choses ont une couleur. Ce n'est pas en apparence que la surface est rose. La surface est rose, même si elle est faite de pigments blancs et rouges. Vous voyez ? Je veux bien revenir sur ces distinctions, parce qu'elles sont très très importantes pour nous. Donc l'enjeu de la phénoménologie, tel que Heidegger, à la suite de son maître Husserl, nous conduit à la pensée, c'est donc de penser l'apparence comme apparition. Alors, d'une certaine manière, on revient à Platon. Rappelez-vous ce que je disais de Platon. Le beau est apparition, manifestation, splendeur du vrai. Le vrai n'est pas ce que nous allons chercher en déchirant les apparences. Le vrai n'est pas le résultat d'une enquête qui écarterait les apparences. Ça, c'est la démarche scientifique. Mais le vrai, c'est précisément la réception de ce qui se manifeste dans l'apparence. Et c'est en cela qu'il y peut y avoir un lien du vrai et du beau. La main de ma maîtresse est vraiment belle. Et si je ne peux pas penser que la main de ma maîtresse est vraiment belle, aucune expérience humaine ne peut être restituée par la pensée. Et le... Alors, d'une certaine manière, on revient à Platon, puisqu'au fond, lorsque Platon nous dit que le beau est la splendeur du vrai, lorsque il comprend avec saint Augustin le beau comme le vrai comme contemplation et non pas comme effraction, non pas comme enquête. Alors, on a bien quelque chose de semblable à ce que essaye de nous dire Heidegger, en nous disant le vrai n'est pas ce que l'on obtient au terme d'une enquête ou d'une effraction, au terme d'un viol des apparences, mais le vrai est ce que l'on obtient dans une disponibilité contemplative. Ce qui nous évite d'avoir à faire les opérations et les enquêtes du soupçon. Donc, d'une certaine manière, lorsque Heidegger nous dit « il faut penser l'apparence comme apparition », il nous permet de retrouver Platon. Vous voyez ? Il nous permet de retrouver comment serait possible l'alliance du vrai, de l'expérience du beau et de l'expérience du vrai. Puisque à ce moment-là, effectivement, le beau devient à nouveau apparition du vrai. Sans soupçon. Qui regarde un tableau avec l'esprit du « on ne me la fait pas » ne verra jamais que ce tableau est beau. Il y en a même qui s'aperçoivent que dans les films, c'est des acteurs qui jouent. Il faut être malin pour ça. J'en connais même qui regardent dans les westerns s'il n'y a pas des fils électriques qui passent. C'est-à-dire qu'ils regardent une œuvre avec l'esprit du « on ne me la fait pas ». Ils sont incapables de la voir. Ils croient que regarder un film, c'est faire une enquête. Regarder un film, c'est s'abandonner à lui, s'exposer à ce que le film nous donne. La vérité n'est pas ce qu'on trouve par effraction, mais ce qu'on trouve dans la contemplation. Oui, mais il y a une grande différence entre Platon et Heidegger, et c'est celle que nous allons explorer ce soir. C'est que, alors que pour Platon, l'artiste n'existait pas, mais donc le fabricant d'images, pour Platon, le fabricant d'images est dans les derniers rangs de l'humanité, au contraire, chez Heidegger, cette expérience de l'alliance du vrai et du beau va se donner dans l'œuvre d'art. Et en cela, Heidegger est héritier de la modernité qui a fait de la question de l'esthétique la question de l'œuvre d'art. Et lorsque Heidegger essaye de retrouver cette idée que la vérité n'est pas ce que l'on va conquérir par effraction, mais ce que l'on va recueillir dans une attitude de disponibilité, au lieu de le dire comme Platon à propos de la beauté des corps, à propos de la beauté du monde, à propos de la beauté des idées même, il le dira à propos de la beauté présente dans l'œuvre d'art. C'est le chemin que je vais essayer de suivre avec vous après cette longue conclusion en forme d'introduction. Ou introduction en forme de conclusion, mais ça nous permettra d'ouvrir assez vite les quelques pages clés de Heidegger. Comment l'œuvre d'art peut-elle être comprise ? Comment l'art peut-il être compris comme manifestation et nous menant à autre chose et au-delà de ce que la vérité objective obtenue par enquête nous donne. Pour trois raisons que j'énumère rapidement et que nous retrouverons chez Heidegger. La première raison, c'est que l'art nous convoque à une autre relation au monde que celle que nous avons dans la quotidienneté et que celle que nous avons dans la technique. Dans la quotidienneté et dans la technique, nous n'interrogeons les choses que pour autant qu'elles nous servent. Les choses sont pour leur usage, orientées vers leur utilité, et elles tombent en désuétude dès qu'elles ne servent plus. C'est sans doute la raison aussi pour laquelle souvent on envoie la beauté lorsqu'elles ne servent plus, ces choses. Tant qu'elles servent, on n'en voit pas la beauté. On ne les interroge que du point de vue de leur finalité, de la finalité asservie, de la finalité commandée, prescrite, qui est celle du sujet qui est au fond absent de ce monde. Car le monde de la quotidienneté et le monde de la technique que je le domine à condition d'en être absent. À condition d'en être, pour ainsi dire, un étranger. Le destin de l'humanité, c'est de devenir étrangère à ce qu'elle domine. Et donc cette nature que je vais dominer, que je vais asservir, que je vais canaliser, dont je vais tirer des énergies, que je vais mettre en forme, que je vais emboutir, j'y deviens étranger à proportion même où je la domine. Je ne la vois plus. Parce que précisément je la domine. Et donc l'œuvre d'art nous convoquerait à une autre relation au monde, qui ne serait précisément plus de dominer les choses, de les utiliser, de les domestiquer, mais de les regarder pour elles-mêmes, en elles-mêmes. Non plus se demander à quoi ça sert, mais s'ouvrir le regard, se laver le regard de tout souci. L'œuvre d'art exigerait de nous une relation au monde sans souci. C'est la première chose qui fait que dans l'œuvre d'art, on peut voir effectivement, vous voyez, une initiation que Platon attribuait, lui, à l'amour. Lorsque Platon nous dit que l'amour doit se détacher de ses premiers objets pour aller être conduit à la contemplation du vrai, au fond, c'est ce à quoi c'est la mission que nos contemporains veulent donner à l'art, une expérience de conversion du regard. L'art nous proposerait une conversion du regard qui nous rendrait capables de vérité. C'est bien ce que nous croyons percevoir lorsque nous nous sentons meilleurs après avoir vu quelque chose de beau. Je me rappelle quelques films dont je suis sorti en me sentant meilleur. Ça n'a pas duré longtemps. Tout de même. La deuxième raison pour laquelle l'art nous conduirait à une autre conception de la vérité, c'est que la musique, la peinture, le théâtre et la poésie elle-même dépassent les catégories étroites de l'exprimable, du langage ordinaire qui procède par catégorie, qui procède par abstraction, puisque abstraire, ça veut dire extraire. Et donc la poésie est la recherche d'un langage qui ne soit pas simplement régi par les règles de la non-contradiction et qui me permettrait de parler de cette sombre clarté qui tombe des étoiles. Et donc qui me permet de dépasser les simples distinctions figées et abstraites que, en direction de laquelle, au contraire, va la science. Donc la science va conduire le langage du côté d'une formalisation. L'art va conduire le langage du côté d'une intuition. La poésie d'un côté, les mathématiques de l'autre. Et donc si l'art peut être compris comme un chemin de vérité, c'est dans la mesure où il révèle et dépasse l'étroitesse des catégories ordinaires de la conversation et de la logique, avec des paradoxes, avec des métaphores, avec des images, etc. Et donc là aussi est une expérience de conversion au fond, renouvelle notre manière de parler, renouvelle notre manière de voir. Et qui connaît un peu de poésie voit sa langue, sa parole ensemencée de ses poèmes et de ses paradoxes que Rimbaud ou Corneille lui ont transmis et qui lui permettent de dire tout autre chose que simplement désigner des catégories. Ainsi, la troisième raison pour laquelle l'œuvre d'art serait un chemin vers la vérité, premièrement, donc, elle nous rend plus attentifs à l'usage, au réel dont l'usage nous rend absent. Deuxièmement, elle nous permet de dépasser les catégories de l'exprimable. Troisièmement, donc, elle instaure par là même un autre rapport avec le monde, un rapport où se joue non plus le succès, mais la vérité. Non plus la réussite, mais la vérité elle-même. Car effectivement, une conception technique et scientifique de la vérité nous fait identifier le vrai et ce qui marche. Mais la tragédie nous suggère qu'il n'en va pas toujours ainsi. Et puis un peu de délicatesse nous permet de penser qu'il n'en va pas toujours ainsi. Et que je peux très bien instaurer un autre rapport avec le monde, un autre rapport avec moi-même et avec les autres, dans le rapport dans lequel où se joue la vérité, sans que pour autant cela se traduise donc sous la forme d'une domination ou d'un succès. Et à ce moment-là, ce qui est attendu, c'est au fond ce nouveau rapport avec le monde, on peut le caractériser par l'attention. L'art, s'il est une initiation à la vérité, nous rend attentifs. Vous voyez qu'on est aux antipodes de Nietzsche. Il n'est pas fait pour nous faire rêver. Il n'est pas fait pour célébrer le mensonge. Il est fait pour nous rendre attentifs. Et s'il y avait quelque vérité de l'expérience, de la rencontre de l'art dans un beau film, dans une belle pièce, dans un beau poème su par cœur, car les poèmes ne sont vrais que quand ils sont su par cœur, un beau tableau, eh bien, c'est de nous rendre attentifs. Soyez attentifs. L'art qui nous fait rêver, l'art qui nous permet l'évasion, le whisky suffit. Le cannabis, paraît-il, n'est pas mal. Ce n'est en rien un chemin de vérité et encore moins d'authenticité. Approchons-nous maintenant de Heidegger, dont la pensée est difficile, c'est pour ça que nous ouvrirons peu de pages de Heidegger. Puis alors, la pensée de Heidegger est difficile, puis elle n'est vraiment pas rendue facile par les traducteurs qui sont complètement délirants. Je connais pas assez d'allemand pour retraduire Heidegger, mais je rêverais de le faire parce que les traducteurs sont complètement fous, des sectaires ivres qui mettent n'importe quoi pour nous rendre Heidegger obscur. Tant pis. Alors, si vous avez compris ce que je dis, ce que j'ai essayé de dire, le rapport à la vérité ne sera pas celui que l'on a avec un objet. Un objet est circonscrit par des définitions. Il a des causes, des mesures, des conséquences. Il est rapporté dans le filet des catégories que l'on utilise. Et c'est pour ça que l'objet est posé devant le sujet, opposé au sujet. L'objet est séparé du sujet. Alors, Heidegger tourne en rond à essayer de penser un autre rapport au réel que celui que nous aurions avec l'objet. La chose, dans son immédiateté. Le mot le plus juste, c'est la présence. « si la science et la technique nous mettent en présence, nous mettent devant des objets, l'art peut nous restituer ce que c'est qu'une présence. Et une présence, évidemment, ça n'est pas quelque chose par rapport auquel je peux être spectateur, car ce qui est présent me regarde autant que je le regarde. Ce qui est présent m'avise autant que je l'avise. Je suis autant devant ce qui est présent que ce qui est présent est devant moi. Et s'il faut restituer un rapport au vrai qui soit différent de celui de la science, ce qui ne veut pas dire que la science est fausse, hein. Si on veut restituer un rapport au vrai qui soit différent de celui de la science, il ne faut plus parler en termes d'objet, mais en termes de présence. Et la condition pour qu'une présence advienne, c'est de laisser être cette présence. De ne pas mettre la main dessus, de ne pas la raisonner, pour la transformer justement en objet. Et c'est ça la contemplation. La contemplation, c'est laisser être la présence. C'est sans doute ce à quoi m'invite un tableau, ce à quoi m'invite un film, ce à quoi m'invite une musique, qui m'interdit d'avoir une attitude analytique. Bien sûr, je peux analyser une musique, je peux analyser un poème, je peux analyser un tableau, je sais faire. Mais au moment où je suis dans la contemplation d'un film, d'un poème ou d'une musique, je ne suis pas dans une attitude analytique. Je n'ai pas posé la chose devant moi, Gegenstand. Ce n'est pas un objet. Mais c'est au contraire quelque chose par lequel je me laisse investir, par lequel je me laisse transformer. La vérité n'est pas ce que je conquiers, mais ce qui me transforme. Les philosophes sont gens curieux. Heidegger, alors il n'y a rien de plus drôle qu'un philosophe lisant un autre philosophe, sans doute ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'il le réinterprète complètement. Et c'est comme ça que Heidegger réinterprète la sentence de Kant que nous avons déjà rencontrée ici, selon laquelle le beau est une expérience désintéressée. Alors, on a vu, quand on a ouvert Kant, que l'expression de Kant voulait dire que le beau n'est pas intéressé à l'existence de son objet. Mais Heidegger l'interprète tout à fait autrement et dit « La condition de la rencontre du beau, c'est de ne pas jeter sur les choses l'utilité. » Et de ne pas jeter sur les choses l'utilité pour précisément les laisser être, les laisser se révéler dans leur épanouissement propre sans les rapporter à moi. C'est ce que Heidegger dit dans son Nietzsche, qui est un livre fondamental, un des grands livres de l'histoire de l'Occident. Mais donc là, c'est assez drôle, c'est une réinterprétation d'un philosophe par un philosophe. Donc voilà, Heidegger réinterprète Kant et il dit... Eh bien, pour trouver quelque chose beau, nous devons laisser l'objet fortuitement rencontré se produire de soi-même. Purement en tant que soi-même, dans son rang et dans sa dignité propre. Nous ne devons point le mettre en ligne de compte en vue de quelque chose d'autre que lui, puisque rendre quelque chose utile, c'est le rapporter à autre chose que lui. Le couteau est utile en tant qu'il est rapporté à autre chose que lui. Lorsque le couteau cesse d'être utile, il est le couteau en lui-même. Et c'est pour ça que la pensée désintéressée, selon Kant, est celle qui pourrait laisser advenir donc, la chose en elle-même sans l'enfermer dans son objectivité. Alors il parle, Heidegger, de libre faveur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une grâce qui tombe, et non pas quelque chose que j'ai conquis. Cette libre faveur, cette manière de laisser être le beau, ce qu'il est en tant que tel, est-ce une suspension de la volonté? Est-ce de l'indifférence? Ou bien plutôt, cette libre faveur ne serait-elle pas plutôt le suprême effort, celui de la libération de nous-mêmes? Il ne s'agit pas d'être sans volonté. Il ne s'agit pas d'être indifférent à la chose. Mais le suprême effort est de se libérer de soi-même, c'est-à-dire de se libérer de la question que l'on pose ordinairement aux choses, à quoi ça sert. Et quand bien même serait-ce pour une écorce d'arbre. C'est pour ça que parfois les artistes nous invitent à regarder une écorce d'arbre, parce qu'au moins l'écorce d'arbre ne nous permet pas la question à quoi ça sert. Et faut donc que je puisse faire cette, ce que j'ai appelé tout à l'heure une conversion. Voilà pourquoi, de la même manière qu'il faut se garder de confondre apparence et apparition, mais qu'il faut comprendre donc l'apparence comme apparition, comme manifestation, il faut aussi revenir à la question de la représentation. Et il faut distinguer la représentation et la présence, et la présentation en quelque sorte. Donc l'œuvre d'art ne serait pas représentation, qui aurait bien circonscrit dans des lignes méthodiques l'objet reconstruit sur la surface du tableau, mais l'œuvre d'art est présence. Et c'est pourquoi Heidegger dit que l'essence de toute œuvre d'art est d'être un poème. Qu'est-ce qu'un poème pour Heidegger ? Le poème, c'est ce qui accomplit la parole dans sa plénitude. La parole, ordinairement, nous sert à échanger des informations au fond du couloir à droite, à donner des ordres, passe-moi le pain, et à passer des commandes, à négocier des marchés. La parole, la plupart du temps, a un usage instrumental. D'ailleurs, des signaux pourraient la remplacer. C'est ce que l'on fait la plupart du temps, par exemple dans la discipline militaire, les signaux remplacent la parole. Et la plupart du temps, donc, nous pourrions facilement remplacer l'usage de... D'ailleurs, on a des pictogrammes de partout, et nos téléphones portables sont pleins de petits signaux qui remplacent aisément la parole de manière synthétique et efficace. Et c'est ce que dit Mallarmé lorsqu'il dit que l'usage quotidien de la parole est semblable à des pièces de monnaie usées que l'on se passerait en silence, de main en main. Des pièces de monnaie usées que l'on se passe en silence, de main en main, elles gardent leur valeur d'échange, elles marchent, mais au fond, plus personne n'y prête attention en elle-même. Et donc le poème, c'est ce qui restitue l'acte de parler l'émancipant de sa fonction de communication et de commandement. Parler n'est pas fait pour communiquer. Pour communiquer, il suffit d'aboyer. D'aboyer des ordres. Dans les films, on dit toujours « il aboyait des ordres ». Parler est fait pour précisément instaurer un rapport avec le monde qui rend la présence des choses, et c'est ce que fait le poème. Heidegger, dans Acheminement vers la parole, dit que la parole est la maison de l'être. J'y pensais souvent du temps que j'avais le bonheur d'enseigner, parce que enseignant, j'ai toujours été convaincu que j'étais le gardien de la maison de l'être. Vous me direz, c'est prétentieux. Mais ça ne fait rien, c'est ce dont j'étais convaincu. C'est-à-dire que j'étais toujours convaincu qu'en transmettant à tous ces jeunes gens le sens de l'amour de la parole, du mot juste, non pas du mot efficace, mais du mot juste, du mot délicat, du mot choisi, en prescrivant la vulgarité, proscrivant la vulgarité et l'impropriété, de les rendre capables de vérité. Platon nous le disait, toute faute contre la langue est une faute contre l'âme. Et le poème nous rend à la vérité de la langue, dont la communication nous exile complètement. Car le poème n'est pas œuvre de communication. Il est manifestation, présence, etc. Et je vous lis quand même, même si le passage est un peu obscur, il ne l'est pas trop, la page 23 de Acheminement vers la parole. Voilà, Heidegger est en train de nous dire que le poème appelle les choses, mais que appeler les choses, ça n'est pas les nommer. Ce n'est pas leur mettre une étiquette. Appeler les choses, c'est les faire venir, les faire advenir à nous, à leur présence. Mais que, appelant les choses à leur présence, lorsque le poème évoque la neige, puisque c'est un poème d'ailleurs pas extraordinaire, me semble-t-il, mais auquel Heidegger attache une grande importance, donc qui évoque la neige, qui évoque le son de la cloche le soir, il est évident que lorsque le poète évoque la neige et évoque le son de la cloche le soir, il ne fait pas venir la neige, il ne fait pas entendre le son de la cloche. Sa parole, en même temps, rapproche l'objet et l'éloigne, nous fait sentir la présence dans ce mouvement de diastole et de systole, dans ce mouvement d'éloignement et de proximité, qui est l'acte même de la parole telle qu'il est manifesté dans la poésie. Sinon, comme le disait Mallarmé, pourquoi prononcer le mot « fleur » si c'est pour le dire devant une fleur ? À ce moment-là, autant une étiquette. Mais le mot « fleur » convoque l'absente de tout bouquet. Et lorsque le mot « fleur », dans sa sonorité, dans sa liquidité, convoque l'absence de tout bouquet, il ne rend pas la fleur ici présente. D'une certaine manière, il en traduit l'éloignement et la proximité. Et tel est bien le phénomène de la présence. Ainsi, l'œuvre d'art est aisément opposée à l'outil, à la production, à l'objet. Voilà pourquoi nous parlons d'œuvre et non pas de production. C'est même un mot qui devient lassant, car nous aimons maintenant parler de création plutôt que de production. Souvent, c'est un mot frelaté, mais qui a le mérite de souligner que la production appartient au monde de la puissance technicienne et de l'efficacité. La production peut être faite par quelqu'un d'autre, peut être reproduite par quelqu'un d'autre, alors que si l'on parle de création, on parle effectivement d'un mouvement donc qui appartient plus à l'émergence de la réalité elle-même, non pas de l'objet que je définis, que je circonscris, mais l'objet lui-même. Opposons un instant l'outil et l'œuvre d'art. Un outil n'est efficace que pour autant qu'il ne se voit pas. Quand je commence à regarder le marteau, ce n'est pas bon pour mes doigts. On demande à un outil d'être invisible, d'être le plus discret possible. Cet outil, il n'a pas de monde propre, il n'a pas un monde à lui. Il est dans un râtelier où il a sa fonction et où il reçoit son être de sa fonction. Indépendamment de cette fonction dans laquelle il se loge comme un Lego, il n'existe pas. Et si bien que de l'outil, on peut dire à la fois qu'il n'attire pas l'attention et qu'il n'a pas de monde propre. En cela, il est l'inverse de l'œuvre d'art qui, elle, demande l'attention, que je ne peux pas contempler distraitement, sauf une musique de fond. Une musique de fond est-elle une œuvre d'art ? Et d'autre part, l'œuvre d'art, on le sait, précisément à la différence de l'outil, a son monde propre. Vous avez tous fait l'expérience d'un tableau qui exige sa place. On ne peut pas le mettre n'importe où. Et c'est à partir Et c'est à partir de ce tableau, c'est la différence entre une œuvre d'art et un objet décoratif. L'objet décoratif s'insère comme un Lego dans un espace qui lui est préalable. L'œuvre d'art exige d'elle un espace qui lui est propre. Et ce tableau, je ne pourrais pas le mettre n'importe où. Cette statue, je ne pourrais pas la mettre n'importe où. Elle a un point qui est quasiment sacré, puisqu'il est unique. Et de la même manière, c'est ce qu'il y a de si... c'est la déréliction effroyable des musiques de fond dans les magasins, dans les bus, etc. Comme si une musique pouvait être véhiculée, instrumentalisée de toutes parts... enfin, comme une manière, je ne sais pas quoi ça sert, mais il paraît que ça sert. Non, une musique demande à être écoutée et elle a son lieu propre et sa manière de l'écouter propre et la transformer en une valeur instrumentale pour calmer les angoisses dans les parkings ou améliorer la production du lait. Car vous le savez, les vaches qui ont écouté du Mozart font du meilleur lait. Ce qui prouve que Mozart est utile. J'avais comme ça du temps, j'ai eu le bonheur d'être étudiant dans les horribles périodes des années 68, et j'avais un certain nombre de mes camarades qui étaient des maoïstes. À l'époque, je ne sais pas pourquoi je me mets à raconter ça, l'Albanie était le modèle dont rêvaient tous les étudiants français, n'est-ce pas ? Pays de liberté et de culture, et donc, un de mes camarades me disait, Mozart est un compositeur progressiste. Je dis, ah oui, pourquoi Mozart est-il un compositeur progressiste ? Eh bien, c'est le compositeur le plus diffusé à Radio Tirana. Formidable argument sur l'instrumentalisation éventuelle de la musique. Quelle époque ! Nous sommes mûrs pour lire, quelques-uns d'entre vous, je suppose, sont revenus avec leur recueil de textes, ceux qui ne l'auraient pas, en voici. Texte numéro 13. Dans l'œuvre, c'est la vérité qui est à l'œuvre, et non pas seulement quelque chose de vrai. Le tableau qui montre les chaussures de paysan, donc c'est le fameux tableau de Van Gogh sur les chaussures de paysan, le tableau qui montre les chaussures de paysan, le poème qui dit la fontaine romaine, ne font pas seulement savoir. À proprement parler, ils ne font rien savoir du tout. Les chaussures de Van Gogh ne m'instruisent pas sur les problèmes de la cordonnerie au XIXe. À proprement parler, ils ne font rien savoir du tout, donc la vérité n'est pas de l'ordre du savoir. Ils font advenir de l'éclosion comme telle. Éclosion, ça veut dire... Le vrai se manifeste et non pas se conquiert. Donc il y a deux images de la vérité. Vérité signifie, dit Heidegger, dévoilement. Mais il ne faut pas de malentendu sur le mot dévoilement. Parce que dévoilement, ça peut être arracher le voile. À ce moment-là, c'est aller conquérir ce qui est derrière le voile. Ou dévoilement, ça peut être laisser se manifester ce qui se déploie dans son évidence. Donc le mot dévoilement est un mot ambigu à l'étéia. Si le dévoilement, c'est écarter le voile pour aller chercher ce qui est derrière, alors la vérité s'obtient par effraction. Si le dévoilement est éclosion, alors la vérité s'obtient non pas par effraction, mais par attitude contemplative par rapport à ce qui se donne dans cette éclosion. On relit. Dans l'œuvre, c'est la vérité qui est à l'œuvre, et non pas seulement quelque chose de vrai. Vous voyez, les chaussures de Van Gogh ne sont pas quelque chose de vrai. Ce n'est pas des vraies chaussures. Les chaussures de Van Gogh ne sont pas des vraies chaussures, je vous signale. Le tableau qui montre les chaussures de paysans, le poème qui dit la fontaine, ne font pas seulement savoir, à proprement parler, ils ne font rien savoir du tout, ce que cet étang particulier est en tant que tel, ils font advenir de l'éclosion comme telle en relation avec l'étang en son entier. Plus simplement et essentiellement, les seules chaussures entrent et s'épanouissent dans leur essence. Plus immédiatement et manifestement, l'étang tout entier gagne avec elles plus d'être. Elles deviennent plus chaussures. Elles deviennent excellemment chaussures. En tout cas, plus chaussures que celles que j'enfile le matin sans les regarder, sans les cirer. L'être se refermant sur soi est ainsi éclairci. Il ordonne la lumière de son paraître dans l'œuvre. La lumière du paraître ordonnée en l'œuvre, c'est la beauté. On relit cette phrase, qui est platonicienne, sauf que, à la différence de Platon, elle est attribuée à l'œuvre d'art. La lumière du paraître ordonnée en l'œuvre, c'est la beauté. La beauté est un mode de séjour de la vérité en tant qu'éclosion. La vérité, c'est l'éclosion de l'étang dévoilé comme tel. La vérité est la vérité de l'être. La beauté ne se rencontre pas à côté de la vérité, car lorsque la vérité se met à l'œuvre, elle apparaît. C'est cet apparaître qui, en tant qu'être de la vérité dans l'œuvre, à l'œuvre, et en tant qu'œuvre, est la beauté. Ainsi, le beau appartient-il à l'événement. Autre catégorie qui permet d'échapper. Vous voyez, on a dit, Heidegger essaye d'échapper au mot objet. Alors j'ai dit, pour échapper au mot objet, il utilise le mot présence. Et un autre mot qu'il va utiliser par la suite, qui est événement, Ereignis. Les chaussures de Van Gogh ne sont pas un objet, elles sont un événement, c'est-à-dire qu'elles surgissent dans un temps et dans un espace qui leur est propre. Et qui est unique, comme l'événement. Ainsi, l'art peut-il être, aux yeux de Heidegger, la mise en œuvre de la vérité, mise en œuvre de la vérité qui convoque le sujet donc à renouveler, à approfondir son regard sur le monde, à se rendre capable de vérité. Alors, vous voyez, ce dévoilement, il est non pas l'identité du discours et de l'objet, ce qui est la conception classique de la vérité, mais l'identité de l'être et de sa manifestation. Ce qu'on appelle, dans le langage commun contemporain, l'authenticité. L'identité de l'être et de sa manifestation. Et donc l'art nous permettrait d'appréhender, de deviner, d'approcher ce que serait la rencontre de l'être et de sa manifestation. Conclusion, avec l'humour nécessaire devant un tel mot. À l'évidence, le discours de Heidegger est un discours mystique, qui doit d'ailleurs beaucoup à Saint-Augustin, qui doit encore davantage à Maître Eckhart, et donc Heidegger transpose, traduit, déplace dans le domaine de l'esthétique un discours esthétique. Pardon, un discours métaphysique. Il indique par là, et l'idée me semble précieuse pour justement apporter une réponse pleinement satisfaisante à Nietzsche, il indique par là que la rencontre du beau dans l'œuvre sollicite une conversion d'attitude, sollicite une disponibilité. Je serai aveugle et sourd à l'œuvre si je suis indisponible. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Et qu'importe la vérité à celui qui s'est rendu indisponible? Qu'importe la vérité à celui qui est dans le souci, dit Orgue. Le souci ne nous a jamais rapprochés une seconde de la vérité. D'ailleurs, un très bon auteur a dit qu'il peut, à force de soucis, accroître sa taille d'une seule coudée. Et le... Alors, j'ai insisté sur le fait que, au fond, ce discours de Heidegger est très semblable à celui de Platon et à celui de Saint-Augustin, justement parce que c'est un discours mystique. C'est-à-dire justement parce que la vérité est ce qui se contemple et non pas ce qui se construit. Si la vérité est ce qui se construit, je peux l'obtenir sans me transformer moi-même. Un laborantin pervers est aussi bon qu'un laborantin délicat. Si la vérité est ce qui se contemple, je ne peux pas la rencontrer sans une conversion de ma propre attitude, sans une modification de ma propre attitude, ce qu'on appelle donc, à proprement parler, une conversion, ce que justement Platon appelait métanoïa, retournement, conversion. Il faut bien que l'être se dérobe à la prise pour que advienne la vérité. Et la beauté nous suggère, nous met sur le chemin de cette idée que l'être ne se donne pas à la prise, mais au contraire qu'il se refuse au fond à la prise, il se dérobe. Lorsque je le saisis comme de l'eau, eh bien il se dérobe à moi, et quiconque se contente d'arraisonner le monde le rate. C'est pour ça que Heidegger et Platon et Saint-Augustin ne sont pas si loin que ça. Parce que, au fond, et ce sera ma conclusion, lorsque Platon et Saint-Augustin nous disent que le beau est la splendeur du vrai, mais c'est qu'à leurs yeux, le réel est une œuvre d'art, l'œuvre d'un dieu. Celui qui voit ce monde comme l'œuvre d'un dieu le voit comme une œuvre d'art. Et donc il ne peut pas manquer à l'idée que l'expérience de la beauté est bouleversante et conduit à une autre vérité que l'usage des choses. Alors que pour Heidegger, qui pour des raisons que je ne développerai pas, sauf si vous insistez, est athée, enfin est païen, à plus proprement parler, il est païen, cette expérience de la présence, il ne la trouve que dans l'œuvre. Pour celui qui pense le monde comme création, cette création est présence. Du coup, elle est œuvre d'art, ouverte à la contiguïté, à la contemporanéité de la beauté et de la vérité. Ça sera la conclusion provisoire de ce parcours qui, pour ma part, m'a passionné. J'espère avoir fait partager quelque chose de cette passion. Je me livre à vos questions.